Il est question d'une maison que David veut construire pour l'Éternel, pour Dieu. Mais c'est Dieu qui promet de lui construire une maison, dans un sens autre, celui d'une dynastie, d'une maisonnée. Il y a deux renversements, en tout cas, dans le passage, au moins deux renversements. Et on va le relever avec deux questions. Une maison bâtie pour qui ? Et une bénédiction de la part de qui ? D'abord, une maison bâtie pour qui ? J'ai vécu pendant 10 mois à Londres et la partie de Londres s'appelle Chingford. C'était anciennement une ville à l'extérieur, mais elle est englobée dans la ville maintenant. Et en me baladant, je suis tombé sur une plaque, la plaque que voici. Et c'est sur ce lieu-là que Laurence d'Arabie avait le projet de construire une maison. Il a acheté ce champ après la Première Guerre mondiale. Il était élevé comme un des héros de la Première Guerre mondiale, celui qui avait su encourager la révolte parmi les peuples arabes contre l'Empire ottoman. Et une fois qu'il s'est retiré de l'armée, il rentre en Angleterre, et c'est là qu'il achète le champ, il a le projet de construire une maison. Il prend contact, il écrit à un ancien ami de l'université d'Oxford. Il voit ce projet de construction, comme dit-il, selon son expression, acquérir un certain mérite. Il y a probablement de l'ironie là, mais l'idée en tout cas, c'est qu'il veut en faire un projet. La construction, en fait, elle ne se fera pas. La maison ne sera pas construite. Et il y aura bien une cabane. Cet ami, à lui, va habiter dans cette cabane quelque temps. Mais comme pour Laurence d'Arabie, on voit ici David au terme d'un conflit, de plusieurs conflits, qui voit d'autres préoccupations, d'autres projets en vue. Il a la stabilité, la paix, il apprécie le confort, le calme d'un palais, mais c'est là qu'il a une autre préoccupation qui lui vient à l'esprit. Et dans une conversation avec le prophète Nathan, il fait part d'une remarque. J'habite dans une maison de cèdre, autrement dit le grand luxe à l'époque, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. Et il voit une absurdité dans le fait que lui réside dans ce palais, alors que le coffre de Dieu, symbole de la présence de Dieu, habite encore dans une toile de tente, et une vieille toile, ça fait un moment qu'elle est là. N'est-ce pas remarquable ? C'est pas remarquable qu'il ait ce projet-là, qu'il ait cette préoccupation-là. Et on peut penser à nos préoccupations. Comment est-ce qu'on réfléchit à notre avenir, à notre retraite? Est-ce qu'on réfléchit comme lui en termes de projets qui vont glorifier Dieu? Ou est-ce que ce sera tout simplement notre confort qui sera le plus important? Notre destinée. Il y a quelque chose à admirer chez David, il ne pense pas qu'à lui, il se préoccupe de la gloire de Dieu. Et sa perspective, elle semble juste. Il se sait soumis à un plus grand roi que lui. Il sait que tout ce qu'il a, le repos qu'il expérimente, vient de Dieu. Et la proposition, elle sonne juste pour Nathan, le prophète aussi. Vas-y, fonce. C'est en d'autres mots ce qu'il lui dit. Et pourtant, cette nuit-là, Nathan, lorsqu'il est rentré chez lui, a une vision de la part de Dieu. Et la question que Dieu pose à David par l'intermédiaire de Nathan est la suivante. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Ça paraissait si juste, si à propos. Et pourtant, le raisonnement doit s'effacer devant la révélation de Dieu. On vient de dire qu'il est bon, qu'il est juste d'avoir des projets pour la gloire de Dieu. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que la révélation de Dieu devrait nous donner une perspective importante sur la manière et sur le moment. Vous avez peut-être des projets que vous voulez entamer pour Dieu. Il nous faut être à l'écoute de la manière, du moment que Dieu voit. L'idée de David, elle n'était pas farfelue. On voit des traces dans la loi qu'il fallait à un moment donné avoir un temple plutôt que cette tente. D'autre part, on voit que la construction, elle va bel et bien se faire par l'intermédiaire de Salomon. Mais dans la manière et le moment, Dieu a des leçons importantes à enseigner à David. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner par là? Eh bien, Dieu commence par rappeler que c'est lui qui a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte. Il s'est déplacé avec eux et il n'a jamais été frustré par le fait de symboliquement demeurer dans une tente, un tabernacle. La chronologie des événements, le contenu, rappelle que Dieu est à l'initiative, toujours, toujours, et qu'il se plaît à vivre les hauts et les bas avec son peuple. S'ils ont expérimenté la rédemption de l'esclavage en Égypte, c'est parce que Dieu est allé les chercher. S'ils ont pris la route du pays promis, c'est parce que Dieu les a accompagnés, les a guidés. S'ils ont vécu l'épreuve de 40 ans dans le désert, lui-même était avec eux. Et ce n'est pas une affirmation isolée. Lorsque Jean, l'évangéliste, nous donne la description de la venue de Jésus dans son prologue, il dit « La parole est devenue chair et a fait sa demeure parmi nous. » Littéralement, cette parole a planté sa tente parmi nous. Référence à l'Exode, Dieu qui a résidé parmi son peuple. David doit savoir, et nous devons savoir, que Dieu est toujours à l'origine d'une rédemption. Et c'est lui qui se plaît à venir vers nous. C'est lui qui se plaît à vivre avec nous les hauts et les bas de notre réalité. On comprend par la suite de la révélation que Dieu renverse l'offre. David voulait offrir une maison à Dieu, mais c'est le contraire. C'est Dieu qui va offrir et lui construire une maison. Et pour comprendre l'enjeu de ce renversement, ça peut être utile de comparer avec l'offre d'autres rois, parce qu'il y en a eu bien d'autres, on ne les a même pas tous certainement, mais de ceux qu'on a reconnus dans l'histoire qui ont été à vouloir construire un temple pour leur Dieu à la suite d'une faveur accordée. On peut penser au roi d'Ur, au moins 2100, Ur-Nammu, qui va construire un temple pour le Dieu en Lille, le roi de Marie, Yadun-Lim, qui construit un temple pour le dieu Shamash, 19e siècle. Des siècles plus tard, en Égypte, c'est le cas pour le pharaon Toutmosis III, pour le dieu Amon-Ré. Toujours pour le dieu Amon-Ré en Égypte, Amenhotep III bâtit un temple pour lui. En Assyrie, Assarhaddon bâtit pour le dieu Ashur. Et ça, c'est simplement ceux qu'on a retrouvés. Et le schéma est à chaque fois le suivant. Il y a une faveur qui a été accordée par le Dieu, ou reconnue comme une faveur. Un temple est construit en l'honneur du Dieu, mais c'est en vue d'obtenir d'autres faveurs à l'avenir, des faveurs futures en réponse à la construction d'un temple. À chaque fois, pour assurer les faveurs du Dieu en question, il va falloir construire un temple pour garantir cet avenir. Ceux qui verraient ça comme quelque chose de primitif, on a vu des statues, on a vu ceci, cela, c'est quelque chose de primitif. On pourrait retrouver les mêmes mécanismes en politique aujourd'hui, dans l'économie, dans le monde professionnel en général. On a ces mêmes mouvements de levier. Mais Dieu ne veut pas qu'on entre en relation sur ces termes-là. Dieu ne veut pas qu'on entre dans ces schémas avec lui. De manière systématique, c'est Dieu qui fait preuve de grâce, c'est Dieu qui s'avance dans toute l'existence et dans tous les domaines, c'est Dieu qui est à l'origine de la grâce, d'un cadeau immérité. Et ce qui est vrai sur l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'un peuple, est aussi vrai à l'échelle d'un individu. Regardez ce que Dieu dit à David. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Est-ce qu'on doit voir David comme le personnage qui a su bien géré sa trajectoire, à la fois politique, guerrière. Il a bien su gérer le pouvoir avec sagesse, faire preuve d'initiative. Au cas où on aurait des problèmes de mémoire, Dieu rappelle tout cela. Lorsqu'il a été choisi, il a fallu aller le chercher parce qu'il était derrière un troupeau de brebis, même pas invité au repas où Samuel se rend. Et même lorsqu'il est au devant de la scène, Dieu rappelle qu'il est toujours celui qui l'a maintenu, qui l'a protégé, qui l'a gardé quand il était menacé par Saul. L'initiative vient de Dieu. Il est toujours le fondement de toute rédemption, de toute providence. Et c'est dû à sa grâce, pas un dû. Le renversement est là pour en témoigner. Le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Et on retrouve ce jeu de mots qu'on a mentionné à l'introduction. Il voulait faire une maison, construction de pierre. Eh bien, Dieu va faire une construction dans le sens de dynastie, une maison pour David, une descendance. Et si nous aussi, à notre niveau, on avait besoin d'entendre ça, si nous aussi, on avait besoin d'entendre cela. J'ai mentionné l'expression que Laurence d'Arabie, alors probablement avec ironie, mais il disait vouloir construire cette maison pour acquérir un certain mérite. Mais dans le même courrier qu'il écrit à cet ami, on trouve une autre affirmation qui doit nous faire réfléchir. Au niveau du moment, on est donc après la Première Guerre mondiale, il passe par ici, à Paris, pour la conférence de la paix. Il est considéré comme un des héros de la Première Guerre mondiale par la presse. Winston Churchill n'est pas encore très connu à ce moment-là, mais il le choisit dès qu'il sort de l'armée pour en faire un de ses conseillers. Et son histoire en Arabie, et en particulier son livre « Les sept piliers de la sagesse » vont être source d'inspiration pour plusieurs chefs militaires par la suite. Mais dans sa lettre à son ami d'Oxford, il écrit cette phrase sur le succès de sa mission en Arabie. Le succès final est son aspect creux au front arabe me pousse à réfléchir ce qui serait un désastre. D'une part, il reconnaît qu'il y a un succès creux. Pourquoi ? On ne sait pas exactement. Est-ce que lui voit des choses que les autres ne voient pas ? Il voit la fragilité de ce qui s'est passé ou que l'action qu'il a eue n'a pas eu tout l'impact qu'il le souhaitait. Et on pose la question, est-ce que c'est si glorieux que ça? Qu'en est-il de la suite? Est-ce que le succès s'inscrit dans la durée? Et rien que d'y penser, dans un deuxième temps, préfère, ça lui fait plus de mal que de bien. Préfère s'en passer. Et la question qu'on a à se poser, c'est à quel glorieux passé est-ce que vous regardez? Pour vous dire quelqu'un de bien, de recommandable? À quel domaine de votre vie vous regardez pour vous dire « ça, je peux vraiment en être satisfait ?» Des personnes qui nous ont aimés dans le passé ou qui nous aiment dans le présent, tel projet qui a réussi, telle ligne dans le CV, telle sollicitation au niveau du travail, est-ce que ça va finalement être suffisamment fort, avoir suffisamment de poids, de gloire? David doit saisir que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, lui vient de Dieu. Sur un plan politique, sur un plan personnel, tout lui vient de Dieu. Et à nous aussi, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Pensez-y. Même le fait d'avoir telle éducation, même le fait d'avoir telle habitude ou de manifester telle persévérance, vous êtes né dans un milieu, vous n'avez pas choisi votre milieu. Dans une famille, vous ne l'avez pas choisi. Tout nous a été donné, capacité, opportunité, moyens, et on devrait le reconnaître. David est invité non pas à se reposer sur ses promesses et sa capacité à les vivre, mais il est invité à se reposer sur les promesses de Dieu et sa capacité à les réaliser. Et ça pose la question, quelle est la force des promesses de Dieu? Est-ce qu'elles sont suffisamment fortes pour nous maintenir dans la durée? Il y a trois éléments majeurs qui pourraient donner à David l'envie de douter de la capacité à Dieu de tenir ses promesses, sa promesse d'un règne, de quelqu'un sur le trône pour toujours. Que va-t-il se passer une fois qu'il meurt ? Déjà, rien que ça. Que va-t-il se passer lorsqu'un de ses descendants va se détourner de Dieu ? Et tout simplement, avec les siècles qui s'écoulent, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu commence par affirmer qu'après la mort de David, Dieu suscitera une descendance et il affermira son règne. D'accord ? Mais qu'est-ce qui va se passer avec Salomon quand il va se détourner de Dieu ? Et voici ce que Dieu affirme. « Moi, je serai son père et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. » Comme un père qui corrige son fils, il affirme qu'il corrigera Salomon, mais sa fidélité ne lui sera pas retirée. Mais la troisième chose qu'on peut mentionner, c'est dans le temps. D'accord, Salomon, mais la suite. Dieu affirme, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. D'accord pour Salomon, mais qu'est-ce qui va se passer après Salomon au fil des siècles ? Qu'est-ce qui se passe quand on a toute une lignée de rois qui n'écoutent pas Dieu, où la corruption prend de plus en plus racine dans leur vie, dans le pays ? Qu'est-ce qui se passe quand ils n'écoutent pas la correction ? Quand la menace de l'exil doit devenir réalité ? Quand le temple que Salomon a bâti est rasé ? Pour toujours ? Pour toujours ? Pour toujours ? Il y a plusieurs façons d'envisager cette promesse que Dieu fait à David. Une manière de voir la réalisation, ce serait de dire, Dieu va faire en sorte qu'il y aura toujours un descendant à David sur le trône. Il y aura toujours un descendant. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que on a justement toute une lignée de rois qui ne vont pas être à la hauteur de David et qui ne vont pas saisir les corrections, ou très peu d'entre eux. Deuxième problème, c'est qu'elle est où cette lignée de David aujourd'hui ? La deuxième manière de voir la réalisation de cette promesse, et c'est de cette façon que les auteurs du Nouveau Testament l'ont vu, c'est qu'il faut voir un descendant David qui est pour toujours sur le trône. Matthieu l'a vu comme ça, quand il décrit la généalogie de Jésus, fils et descendant de David. Luc le voit comme ça, lorsqu'il relate dans le livre des Actes le discours de Pierre. Pierre, qui à la Pentecôte, revient sur cette promesse et il affirme que la réalisation se trouve dans le fait que Jésus est revenu d'entre les morts, à la différence d'un David. Jésus, le Christ ressuscité, c'est lui le roi pour toujours sur le trône. Et l'apôtre Paul est dans la même lignée, dans le début de la lettre aux Romains. Oui, Dieu a tenu sa promesse. Il y a bel et bien un roi de la lignée de David, pour toujours, un trône éternel. Et le Christ ressuscité est le gage de cette promesse. Si vous étiez là ce matin pour entendre le message de Matthieu, Jésus-Christ est le gage de cette promesse pour toujours. C'est lui notre sécurité, c'est lui notre justification devant Dieu. C'est lui qui garantit notre sécurité éternelle, le repos. Après avoir entendu cette promesse, quelle va être la réaction de David ? Quelle va être votre réaction aux promesses de Dieu ? Très rapidement, on va voir une bénédiction de la part de qui ? David, il éclate en reconnaissance, en louange. Et le terme qui revient à plusieurs reprises, c'est le terme « bénir ». Mais bénir, dans quel sens ? Vous savez, quand on chante certains chants ici à la RDS où on dit « Béni Dieu, ô mon âme » ou « Béni soit le nom du Seigneur » ou « Béni soit ton nom ». Selon ce sens-là, cette utilisation-là, il s'agit de dire du bien au sujet de Dieu, de le louer, de l'honorer par nos paroles. Et dans la première partie de cette, cette prière de David, c'est ce qu'on voit. Il y a cet émerveillement devant Dieu dans les versets 18 à 24, une louange, on le sent ému, bouleversé. Que suis-je, Seigneur Dieu ? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? Il est conscient de là où le Seigneur l'a emmené, de là où il était au départ, à travers les épreuves, à travers tout ce qu'il a vécu. Et ce qui est vrai sur un plan individuel est vrai sur un plan collectif. Dieu est intervenu en sa faveur. Et la question qu'on doit tout naturellement se poser, c'est est-ce que nous l'avons reconnu ? Est-ce qu'il y a cet émerveillement pour l'œuvre de Dieu dans notre vie, son salut, cette justification, cette paix avec Dieu ? Et dans le quotidien, la force pour chaque chose, construire une maison, bâtir une famille, être gardé, protégé sur la route. Est-ce qu'il y a cette reconnaissance qui vient naturellement ? Ou est-ce qu'on a de la peine à le voir ? Louis XIV est connu comme le roi soleil. On le considère comme le modèle par excellence de roi absolu, de monarque absolu. Il ne tolérait aucun rival. Mais les premiers mots de Massillon qui va parler au moment des funérailles, devant le cercueil, va dire « Dieu seul est grand, mes frères. » Et dans ces derniers moments, surtout où il préside à la mort des rois de la terre, « Dieu seul est grand. » Les plus grands aux yeux du monde sont toujours inférieurs à la supériorité de Dieu, à sa grandeur à lui. Et il va nous falloir le reconnaître à un moment ou à un autre. David le sait et il saisit cette opportunité de le reconnaître. Mais après avoir béni Dieu, on trouve la demande de David dans les versets 25 à 29. On l'entend demander la bénédiction de Dieu sur lui. Que ma maison à moi, David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, Seigneur des armées, Dieu d'Israël, tu m'as informé, je bâtirai une maison pour toi. C'est pourquoi j'ai trouvé le cœur de t'adresser cette prière. Et au verset 29, maintenant veuille bénir ma maison, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur Dieu, qui as parlé, et par ta bénédiction, ma maison sera bénie pour toujours. Voilà le deuxième sens de la bénédiction. Si dans un premier temps, il bénit Dieu, il dit tout le bien qu'il a de Dieu, il est question ici d'être béni de Dieu, d'être au bénéfice de ses promesses, de sa providence, de son amour, de reconnaître dans tout ce qui nous est accordé la bénédiction de Dieu. Et il demande tout simplement à ce que cette bénédiction promise soit réalité pour lui. C'est ça la prière. Reconnaître que Dieu veut vouloir donner, il veut bénir. Et par la prière, on veut tout simplement saisir cette générosité, cette bonté, s'appuyer sur ses promesses par la prière. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul, lui aussi, témoignera de ces deux utilisations de la bénédiction. Dans sa lettre aux Éphésiens, il commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il nous invite à reconnaître toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes viennent de Christ. C'est lui le roi par lequel toutes les bénédictions nous sont données. Une bénédiction qui englobe le passé, le présent, le futur, et tout vient de lui. Il y a la reconnaissance, mais il y a aussi le désir d'expérimenter. On le voit prier tout au long de cette lettre aux Éphésiens. Prier que cette puissance qui a été à l'œuvre en Christ, elle soit en œuvre en nous, pour nous permettre de comprendre, de voir, d'être saisis par l'espérance. La prière aussi, tout simplement pour qu'on réalise sa présence en nous par son esprit. La prière pour qu'on réalise son amour. Et j'espère que c'est notre aspiration aussi, de saisir en Jésus toutes ces bénédictions dans les lieux célestes. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que le fondement de notre relation avec toi est basé sur tes promesses à toi. Nous te remercions pour ton initiative et ton amour qui s'est approché de nous. Tu as demeuré parmi nous, en Jésus, parole faite chair. Et en lui, nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Accorde-nous, Seigneur, de trouver en lui le repos, la paix, la sécurité. Accorde-nous à chacun d'expérimenter cette puissance à l'œuvre à l'intérieur, cette paix, cette joie, cet amour, de sorte que l'on puisse vivre différemment. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de nous tourner vers lui en tout temps et non pas de compter sur nos forces, nos ressources, notre sécurité à nous-mêmes. Nous te le prions pour la gloire de ton nom. Amen.